Et ce matin, on vous emmène en Normandie à Hérouville-Saint-Clair.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez le bienvenu pour ce nouveau rendez-vous Place du Marché. Hier, vous étiez avec Aurélie Sfez à l'Odève dans le Larzac. Aujourd'hui, on est à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, tout près de Caen. Quand on arrive ici, on comprend vite qu'on est dans ce qu'on appelle une ville nouvelle. Elle est sortie de terre il y a 58 ans. La majorité des immeubles se ressemblent. Des espèces de cubes de 4 ou 5 étages avec des logements dedans. Rien de très glamour à première vue, sauf peut-être les mouettes qui survolent la ville. Mais en prenant le temps, on découvre une ville riche sur le plan culturel et social. Pendant longtemps, Hérouville a été une banlieue dortoir. En 1987, la ville voit naître un vrai centre-ville. On le surnomme la Citadelle Douce avec sa mairie, son théâtre, son cinéma et ses commerces. Hérouville-Saint-Clair a toutes les caractéristiques de la ville de banlieue, un faible niveau de vie, une population d'origine diverse, de nombreux habitats HLM, mais contrairement à d'autres communes populaires, Hérouville-Saint-Clair n'a jamais connu d'émeute. Joël Le Tensoraire, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste, directeur de la radio locale TSF 98. Vous faites aujourd'hui partie de l'association Hérouville Mémoire. Le marché où on se trouve là est très cosmopolite. Il y a des gens d'origine maghrébine, il y a des blancs, il y a des asiatiques. C'est à l'image de la ville ?
C'est tout à fait à l'image de la ville. Et vous posiez la question il y a quelques instants, mais pourquoi il n'y a pas eu d'émeute, etc. Ben c'est parce que dans cette ville, on vit ensemble. Le vivre ensemble ici, c'est vieux. Ça date d'il y a 40 ans, ça date d'il y a 50 ans. On en parlera tout à l'heure. La fête des communautés, les gens dans les quartiers, etc., etc. Ça, c'est Hérouville.
Mais il y a combien de communautés qui vivent ensemble ici ?
80. 80 communautés.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme. Et j'ai envie de dire, ça se voit et ça ne se voit pas. Les gamins, où est-ce qu'ils ont leurs premiers émois amoureux ? C'est dans les cours d'école, c'est au pied des immeubles. Et ils s'en foutent que leurs copains, leurs copines soient noirs, soient maghrébines, soient turcs, viennent d'Asie, etc. Ils s'en foutent, ils sont amoureux, c'est tout, point final. Et c'est ça aussi l'image de cette ville.
Joël Le Tensoraire, on reviendra avec vous sur l'histoire d'Hérouville-Saint-Clair. On verra aussi qu'il y a une offre culturelle importante, notamment en ce qui concerne le théâtre. Et on prendra même un bus particulier pour ça. On fera aussi la connaissance d'un jeune Normand qui souffre de schizophrénie et qui se bat pour faire de la prévention. Et à la fin de l'émission, on parlera de l'université en cette année si particulière avec le doyen de la fac de droit de Caen, un homme aux multiples talents, puisqu'il chantera pour nous du rock country. Mais avant, on écoute Nick Waterhouse avec Tutelle, un titre choisi par notre programmateur musical, Djoubaka.
Keep it, did I see you walking while you were sleeping, did I hear you talking just like you got some notion, do you see a mirror where I see it for you?
Vous êtes sur France Inter, on a rendez-vous place du marché à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. Nous sommes toujours en compagnie de Joël Le Tensoraire, figure de cette ville populaire normande. Nous a rejoint Raouf Bramia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène et responsable de la troupe de théâtre Le Carré Bleu. Joël Le Tensoraire, au départ cette ville, votre ville, c'est un petit village et c'est dans les années 60 que l'État décide d'en faire une zone prioritaire à urbaniser. Pour quelle raison ?
Ah ben parce que à cette époque-là, on est en pleine industrialisation. Alors, il y a la Savième, qu'on appelle la Savième. Aujourd'hui, la Savième, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens, parce que après, ça a changé de nom, Renault Trucks, etc. Mais il y a plein de gens de la campagne qui arrivent. Il y a la radiotechnique, il y a Moulinex. Enfin, il y a plein d'usines qui se créent, et ces gens-là, il faut les loger. Il faut les loger. Et donc, il y a eu une première urbanisation à Caen, juste après la guerre, parce que là aussi, il fallait loger. Et puis, tout d'un coup, il faut loger. Donc, on construit cette ville. On construit Hérouville. Et moi, je m'en souviens, parce que j'étais gamin à cette époque-là. J'étais ado. Hein. Et il s'est passé cette chose absolument fantastique, extraordinaire. On construisait une ville. On avait ici un village de 1700 habitants. Et nous, le dimanche, on venait, on regardait les immeubles qui poussaient, on regardait les rues qui se faisaient, on regardait tout ça qui était en train de se construire.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là, à peu près dans les années 60 ?
Dans les années 60, j'avais 11-12 ans.
Et ici, il y a une forte culture ouvrière dans cette région normande. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment, mais mai 68 a commencé ici en janvier 68.
Ça a commencé à Caen, et justement avec la Savième. La Savième, c'était des ouvriers qui venaient de la campagne, hein, et quand ils sont descendus, ils étaient très en colère, très très en colère.
Ça a été violent, il y a eu des émeutes.
Très violent. Et ils sont descendus de la Savième, de Mondeville, etc., dans le centre-ville de Caen, et ce qu'ils avaient dans les poches, c'était pas des bonbons, c'était des écrous et des boulons qu'ils avaient pris, qu'ils étaient en poche avec des élingues, et ça a été affreux. Affreux. Le lendemain matin, il y avait des vitrines par terre. Ça sentait encore les gaz lacrymogènes, etc.
Très vite, la population d'Hérouville-Saint-Clair a été multipliée par 20 en quelques années. On est passé de 1000 à 20 000 habitants. Comment ça s'explique ça ?
Tout simplement parce que d'habitude, on rajoute un petit quartier, on rajoute un bâtiment, etc. Ici, là, on est à la haute folie. Juste derrière...
C'est un quartier d'Hérouville.
Un quartier d'Hérouville. Juste derrière, il y a le Grand Parc, il y a les Belles Portes. Ces trois quartiers-là se sont construits en même temps. En même temps. C'est-à-dire que cette ville qui avait en 62 1700 habitants, 1784 si ma mémoire est bonne, tout d'un coup, on est passé à 10 000, 9 800, et on est repassé à 15 000, et puis à 20 000, on est arrivé à 23 000, 24 000.
Mais d'où venaient tous ces nouveaux habitants ?
Ils venaient de la campagne, ils venaient, c'était les ouvriers de toutes les usines autour. Il y a eu plusieurs immigrations, il y a eu l'immigration économique, des gens qu'on a fait venir. On leur a dit venez, et donc ils sont venus.
Pour travailler.
Mais il y a eu aussi une immigration politique, les boat people qui sont venus.
D'Asie.
Il y a eu une immigration en 73 qui venait du Chili, après le coup d'État de Pinochet. Il y a eu une immigration d'Afrique aussi. Enfin, moi, j'ai envie de dire que cette ville a été le lieu où il fallait venir parce qu'elle ne s'est pas construite comme les autres. Elle s'est pas construite comme les autres.
Ce qui, au départ. En quoi c'est pas construite comme les autres?
Mais au départ, ça devait être une cité dortoir. Hein, c'est-à-dire que on est là, on dort, et puis après on va travailler, puis point final. Or, ce qui s'est passé, c'est que il y a, d'une part, cette ville s'est construite sur des luttes. Les habitants se sont groupés parce qu'il n'y avait pas de transport. Donc ils sont battus pour avoir des transports. Il n'y avait pas de commerce, ils se sont battus pour avoir des commerces. Et puis tout d'un coup, il y a des associations qui se sont créées pour le CLECH, Centre de loisirs éducatifs d'Hérouville-Saint-Clair. Pour créer des loisirs pour les mômes. Et puis, et tout ça, ça a été un creuset énorme. Une municipalité a été élue, hein, et qui a dit, cette ville ne sera pas une ville dortoir, cette ville sera une vraie ville.
Raouf Bramia, vous, Vous avez eu un parcours particulier. Vous êtes arrivé relativement tard en France, à l'âge de 26 ans. Vous venez d'Algérie. Dans quelles circonstances vous êtes arrivé ici ?
C'est tellement passionnant d'écouter Joël, parce que là, c'est vraiment génial. C'est la mémoire qui se déroule, là.
On sent que c'est les tripes qui parlent.
Hein. Oui, tout à fait. Et je suis passionné. Alors, je suis venu, les années 90, directement de mon pays natal, Algérie. Et là, je suis arrivé en tant qu'étudiant à l'École des Beaux-Arts de Caen. Et j'ai été admis à la cité universitaire à Hérouville. C'est pour ça que je suis resté après. Hérouville, pour moi, pour rajouter quelque chose, c'est une ville passerelle. De passer d'un quartier à un autre, il y a toujours un petit pont. Mais la ville elle-même, elle est passerelle. Parce que les gens qui habitent, et les gens qui passent et qui voyagent, laissent des traces. Et l'ensemble des traces forme la mémoire et forge l'identité de cette ville. C'est pour ça que c'est une ville riche.
Joël Le Tensoraire, près de 20 000 habitants, on l'a dit, pas loin de 80 nationalités, un niveau de vie assez bas, on faut le dire, pas mal d'habitats HLM. On a toutes les caractéristiques d'une ville de banlieue. Et pourtant, contrairement à des villes avec le même profil, il n'y a jamais eu d'émeute ici. Comment ça s'explique ça ?
La raison principale, c'est cette volonté politique qu'il y a eu dans cette ville, dans les années 70-80, de dire « on vit ensemble ». On vit ensemble. Quand en 78 a lieu la première fête des communautés.
Alors c'est quoi cette fête des communautés ?
La fête des communautés, au départ, c'est pas une fête dans la ville, c'est une fête dans un quartier. À l'école du Val. À l'école du Val qui recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamins qui venaient de tous les pays, hein, etc. Et les instits, les parents, les associations, à la fin de l'année, on dit, mais plutôt que de faire une fête de l'école traditionnelle, plutôt que de faire une kermesse, eh bien, on va faire une fête avec tous ici. Et on va présenter ce que font toutes les familles qui viennent d'Asie, qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique noire, qui viennent de ça. Et on va le présenter. Et voilà ce que l'on fait.
Et ce qu'ils font, c'est-à-dire sur le plan culinaire, artistique ?
Principalement culinaire. Parce que c'est le plus simple. On se met autour de la table, on mange, etc.
C'est fédérateur, la bouffe.
Et c'est tout à fait fédérateur. Et puis, immédiatement, bien sûr, il y a le culturel qui arrive derrière. Et depuis plus de 40 ans, la fête des communautés, on a eu l'épisode pandémie, mais on va l'oublier. Et puis, la fête des communautés, qui était une kermesse d'école, on va dire comme ça, tout d'un coup, prend Haussan Bourgard, qui est un...
C'est le château avec un immense parc qui est magnifique.
Un château qui est magnifique, et tout d'un coup, la fête des communautés, elle s'installe ici, et là, c'est la ruée. Tout le monde vient.
Combien de personnes ?
10 000, 15 000, je sais pas. Enfin, c'est énorme, c'est énorme.
À Hérouville-Saint-Clair, la culture tient une place majeure pour expliquer la réussite de ce vivre ensemble. Raouf Bramia, vous êtes le responsable du Carré Bleu. C'est quoi au juste le Carré Bleu ?
Alors ça, c'est ma deuxième casquette. Je suis responsable d'un dispositif culturel qui est créé au sein de la direction jeunesse et sport de la ville d'Hérouville. Le Carré Bleu, c'est un lieu d'expression libre. On vient, on s'exprime sur tout. Et surtout dans le monde du spectacle, à une seule condition, respecter le carré, le cadre, c'est-à-dire les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité et laïcité.
C'est important la laïcité.
Ah oui, c'est important, ça protège tout le monde. Et puis elle a du sens ici à Hérouville.
Pourquoi ça a du sens ici à Hérouville précisément ?
Parce que c'est du concret. Au sein par exemple de la troupe, elle est composée d'une centaine de personnes. Quand ils viennent pour répéter du théâtre ou de la musique ou du chant, ils disent pas je suis maghrébin ou je suis asiatique ou je suis africain, etc. Je suis hérouvillais d'abord, après je suis français et on est là comme artiste à partager notre passion.
Joël Le Tensoraire, vous voulez rajouter autre chose sur le Carré Bleu ?
Moi, je vais rajouter quelque chose que Raouf ne dit pas. Il y a un moment extraordinaire, c'est le spectacle au théâtre d'Hérouville. Le théâtre est plein, archi plein.
700 places, hein, le théâtre.
700 places. Tous les gens qui sont là, ce sont les familles, etc., qui participent. Et là, on n'est plus dans un sanctuaire, là. On est dans quelque chose d'extraordinaire.
Et justement, c'est toutes les familles qui viennent participer à cette pièce. Il y a tous les âges. Comment ça se passe ?
C'est des gens passionnés qui viennent adhérer à un projet. Alors, à la base, c'est un projet un peu théorique. C'est un synopsis que j'ai créé. Inspiré de la vie hérouvillaise. Et puis après, il y a la construction avec ceux qui sont disponibles, qui veulent partager quelque chose autour de leur passion. ils viennent au Carré Bleu et ensemble, après, on étoffe un peu le projet, le spectacle. Et après, il y a le moment du partage.
Toujours dans cette volonté de rassembler, de faire découvrir une autre culture, il y a une initiative que je trouve géniale, ce sont les Cafés Polyglottes. C'est quoi ça, Joël ?
Alors, les Cafés Polyglottes, c'est une initiative de la bibliothèque et du Café des Images.
Qui est le cinéma du quartier ici, qui rassemble beaucoup de gens.
Qui est le cinéma d'Hérouville, qui sont l'un à côté de l'autre. Or, il y a eu cette idée, à partir du fait qu'on parle plein de langues ici, eh bien, on fait un café polyglotte, une fois à la bibliothèque, une fois au Café des Images, dans le tiers-lieu du Café des Images. On fait une table par langue, une table de portugais, une table d'arabe, une table de... peu importe. Et puis, on discute ensemble, on partage ensemble. Et une fois par an, c'est le Café Polyglotte des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a que des enfants qui sont autour de la table et qui partagent. Mais alors, c'est pas seulement un apprentissage de la langue, vous l'avez bien compris, c'est aussi se rencontrer, se dire, mais on est tous dans la même pièce, on parle tous des langues différentes et pourtant on se comprend.
On le voit avec vous, Raouf Bramia et Joël Le Tensoraire, la vie culturelle est extrêmement riche à Hérouville-Saint-Clair. On pense au festival Beauregard qu'on a évoqué, qu'on adore sur France Inter. On a hâte de le retrouver. Il y a aussi le Centre Dramatique National de Normandie que vous connaissez bien. C'est là que vous jouez le spectacle du Carré Bleu. On l'a évoqué avec cette salle de 700 places. Son directeur n'est autre que Martial Difonzobo. Après une année difficile pour le théâtre, lui et sa troupe sont repartis en tournée avec leur nouveau spectacle Buster Keaton. La première représentation a évidemment eu lieu ici, à Hérouville. C'était le 8 juin dernier. Nous étions présents pour ces retrouvailles.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Bonsoir.
Place au nom de l'eau.
Ça avait été réglé ?
Oui.
Martial Difonzobo, des premières, vous en avez connu des milliers. Et ce soir, cette première-là, elle est particulière ?
C'est une première particulière parce qu'elle marque aussi forcément, j'espère, le retour à une vie plus proche de celle qu'on a eue avant ces satanés virus. Un théâtre sans public est un théâtre mort. On a maintenu les équipes en travail, on a maintenu l'activité comme on a pu. C'était très compliqué, mais on y est arrivé. Ça me fait plaisir, je sens une immense joie.
Alors, il va nous falloir deux places adultes, deux places enfants.
Ça vous fait quoi d'être là ce soir, madame ?
Ça change, ça fait du bien de revoir un théâtre.
Tenez, passez une très bonne soirée, au revoir.
On est en avril 1896. C'est ainsi que commença la légende de Buster Keaton.
C'était comment ?
Moi, j'étais assez contente de pouvoir retrouver du public et assister à nouveau au spectacle parce que ça faisait quand même un an qu'on n'avait pas pu assister. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le masque, pour moi, ça me dérange pas du moment qu'on peut quand même profiter de ce qu'on voit et d'être avec les gens. Je trouve ça bien.
Et vous, jeune homme, ça vous fait quoi de revenir au théâtre ce soir ?
Moi qui suis un passionné de théâtre, j'aime beaucoup revenir. Vraiment, ça m'avait manqué, quoi.
Martial Difonzobo, la pièce vient de se terminer. Ça va mieux ?
Oui, ça va toujours mieux après, parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque part un peu une première. Les premières sont toujours inattendues. Le public était content. On sent une énergie qui est inhérente, enfin qui est celle du spectacle vivant, du rapport entre les comédiens et le public. Et ça, c'est quelque chose que forcément, voilà, on peut pas du tout inventer. C'est la magie du théâtre.
Gâté qui passe. se régaler. Amis vautours, attendez donc vos tours. La queue le, qui c'est qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixi, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
C'était Fixi et Nicolas Giraud et Jojoa, ils chantaient « La vie est belle ». Vous écoutez France Inter, c'est rendez-vous Place du Marché à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados. On est toujours avec Joël Le Temps Sorère, figure et mémoire vivante de la ville. Il y a aussi Raouf Bramia, metteur en scène et responsable du Carré Bleu ici à Hérouville-Saint-Clair. On a fait quelques mètres, on est en bordure du marché pour rejoindre un bus très particulier. Il est plein de couleurs, il est décoré, il y a plein de dessins, on voit un clown, un chat peint par-dessus. Je suis sûr que ça va vous plaire, Raouf. C'est un bus transformé en salle de spectacle. Alors, on nous attend, on va taper à la porte. C'est Florence Bailleul qui nous accueille, bonjour.
Bonjour, bienvenue à tous.
Vous faites partie de la compagnie Créa, et là, on est donc dans votre Créabus. On va faire monter tous nos invités dans votre bus, si c'est possible.
Oui, il n'y a pas de problème, allez-y, prenez place.
Venez, venez, Raouf, Joël, ils prennent place où, nos invités ?
Alors, sur votre gauche, quand vous rentrez, dans l'espace gradin, où on peut accueillir jusqu'à 30 à 40 personnes.
Voilà, installez-vous. Est-ce qu'on peut fermer la porte, Florence, pour se couper un petit peu du bruit de la rue du marché ?
Ouais, pas de problème.
Alors, décrivez-nous un petit peu l'endroit. Là, on a vu les gradins où se sont assis nos invités. 30 à 35 personnes, vous nous avez dit. Et ensuite, on a quoi de l'autre côté ?
Alors, du coup, c'est un bus, il reste plus rien, plus de siège, que le siège conducteur. Vous entrez par la porte du milieu, les spectateurs prennent place dans les gradins, donc complètement équipés. Et sur votre droite, quand vous rentrez, il y a la scène. Alors voilà, hein, c'est un bus de ville, donc l'espace est réduit, mais néanmoins, je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà, je trouve qu'il y a quand même un espace assez joli pour jouer.
Vous avez calfeutré toutes les fenêtres, il fait sombre, vous avez juste mis des vraies lumières de théâtre.
On est en fait vraiment dans une salle de spectacle itinérante. Donc là, on est sur un espace complètement équipé professionnellement. en respectant ce qui est très cher pour nous, le développement durable. Donc on est tout en basse tension, on a juste une prise de courant, tout marche.
Lorsque vous jouez, vous changez où? Où sont les coulisses, les loges?
Alors je vous emmène. Je vous emmène dans les toutes petites coulisses qui sont en fait juste derrière, à côté du siège conducteur.
Ouais, c'est l'avant du bus, quoi.
Voilà, l'avant du bus. Donc on calfeutre tout à l'avant, donc tout est noir. Et si on a besoin de sortir de scène, eh bien c'est par la toute petite porte par ici. Et ouais. Donc effectivement, il y a des petites coulisses.
Mais comment vous est venue l'idée de créer ce bus, cette salle de spectacle itinérante?
Alors en fait, Créa, c'est une compagnie de spectacle qui existe maintenant depuis 14 ans dans la région normande, mais qui voyage aussi bien en France qu'à l'international. Et nous, notre philosophie et notre maître mot depuis toujours, ça a été d'aménager des espaces et de les mettre à disposition des professionnels, des metteurs en scène, des comédiens, des danseurs, des musiciens. Et puis, on s'est dit aussi, parce qu'il y a quand même un manque quelque part de ça, d'espace ouvert à tout à chacun. Et puis, notre philosophie, c'est aussi de se dire la culture n'est pas réservée à certaines catégories de personnes, ni à certains endroits. Tout le monde peut aller voir des spectacles. Tout le monde peut jouer, il suffit juste d'aller titiller le petit truc qui fait que oui, on va y aller. Donc on s'est dit, plutôt que les gens aillent pousser la porte d'un théâtre, parce qu'il y a certaines personnes qui se l'interdisent.
Ça leur fait peur.
Voilà, ça leur fait peur. Alors ça peut être géographique, hein. Quand on est en pleine campagne, c'est compliqué d'aller voir un spectacle quand il n'y a pas de bus. Mais ça peut être aussi socialement parlant. Je ne sais pas pour moi, je vais rien comprendre, c'est pour les autres, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pour tout le monde. Et nous, ce partage de la culture, il était très important dans le sens où on s'est dit, si les gens ne franchissent pas la porte des théâtres, il faut aller à leur rencontre.
Florence Bayeul, donnez-nous quelques exemples d'endroits un peu inattendus où vous avez pu jouer avec votre Créabus.
Alors, on a joué dans des festivals, notamment par exemple sur des thématiques de développement durable, puisqu'on a deux spectacles, dont l'un traite de la préservation de l'eau, et l'autre la préservation de la planète, vraiment sur le sable, quoi, en bord de plage. Comme on a pu jouer en plein centre-ville de Caen, au château, lors du Salon du Livre. Et puis, on est allé jouer dans des tout petit village, donc pour les Normands, Cambremer, c'est des tout petits villages que, voilà.
De combien de personnes?
200 personnes, quelque chose comme ça. Et donc, on se pose là, et puis on a joué dans une ferme, dans une cour de ferme.
Et quand vous jouez, que ce soit à la campagne, dans des tout petits villages ou dans des quartiers populaires, quel retour vous avez du public? Ils vous disent quoi?
Alors, le premier passage, c'est: c'est quoi ce truc? Vous faites quoi ici? C'est quoi dedans? Donc on leur explique. Et puis après, eh bien, ils sont très étonnés que ça puisse exister. Il faut savoir que ce bus, on a cherché, hein, je pense que c'est le seul en France.
Peut-être même au monde.
Ah, j'en sais rien. Mais en tout cas,
mais n'ont pas peur.
En tout cas, c'est le seul en France où on monte vraiment dedans voir le spectacle. Le spectacle ne se passe pas à l'extérieur. Et puis les retours, c'est que, normalement, on nous demande de revenir parce que ça plaît énormément.
Mais c'est des spectacles où il n'y a pas trop de paroles, c'est très visuel.
Oui, voilà, c'est une volonté. Il faut savoir que sur nos 8 spectacles, on en a quand même 300 paroles. C'est fait exprès. Des connaisseurs n'iront pas me contredire. Le théâtre n'est pas forcément parlé. Nous, on est beaucoup sur du théâtre corporel, visuel. Donc on a 3 spectacles sans paroles qui nous permettent d'aller jouer à l'étranger. En Chine, au Népal, en Inde, et on adore ça.
Bon, en tout cas, vous avez bien décoré votre bus, hein. Il est magnifique. Là, vous avez même mis quelques accessoires de théâtre.
Voilà, juste quelques accessoires d'un spectacle qui s'appelle « Il était encore une fois », qui se joue d'ailleurs aussi bien dans le Créabus qu'en salle. Mais en fait, le but est de démonter toutes les plaques qui sont amovibles sur les fenêtres. On les change et on installe l'autre décor et on met tous les éléments de décor qui vont avec.
Et nous, on adore les rencontres, provoquer des rencontres entre nos invités. Et justement, on a un nouvel invité qui nous a rejoint. Florence, on a profité de l'ambiance intimiste de votre bus pour recevoir Maximilien Durand. Maximilien Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Canteloup, pas loin d'ici. On a choisi ce bus pour vous accueillir, pour son calme, pour que vous nous parliez de vous et de ce que vous faites. Et je voulais vous demander, est-ce que vous voulez qu'on reste que tous les deux ou nos invités peuvent assister à notre échange ?
Oui, on peut rester tous ensemble.
Je vous pose la question parce qu'en fait, vous souffrez de schizophrénie. Mmh. Vous avez traversé des moments de crise difficiles. Aujourd'hui, vous allez beaucoup mieux. Et vous mettez à profit cette période d'accalmie pour faire de la pédagogie, donner des conseils. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment se sont manifestés les premiers signes de votre maladie ?
Eh bien, ça a commencé quand j'étais au collège. Donc ça a commencé par des idées étranges. C'était des idées assez violentes. Donc que ce soit vraiment violence physique ou sexuelle, des choses comme ça. Et après, il y a eu des hallucinations, donc hallucinations plutôt visuelles et auditives, dans un premier temps. Enfin, c'était surtout ça qui est encore un peu présent aujourd'hui.
Et c'est-à-dire, ces hallucinations, c'était quoi, les images qui surgissaient dans votre esprit ?
Alors en fait, c'était pas forcément dans mon esprit, c'est que je pouvais vraiment voir de mes propres yeux. Donc, par exemple, pour tout ce qui est hallucinations visuelles, en général, c'était du sang ou des monstres enfermés dans des voitures. Maintenant, c'est plutôt des ombres que je vois, des ombres humanoïdes. Après, ça peut être des hallucinations visuelles qu'on dit intrapsychiques, donc que je peux voir directement dans ma tête, en fait, comme un film. Voilà, par exemple, il y a eu des périodes, des fois, où je me voyais me sauter du troisième étage de l'appartement, par exemple. Donc ça, c'est assez flippant parce que j'avais peur de mettre exécution cette chose-là. Bien évidemment, on m'a rassuré, enfin mon ancien psychologue m'a rassuré en me disant c'est pas parce qu'on pense à des choses qu'on va le faire. Donc à partir de là, je me sentais mieux parce que voilà, j'avais peur de faire ces choses-là, j'avais peur de devenir violent envers les autres. Et au niveau des hallucinations, je reviens dessus, donc les hallucinations auditives, en général, c'est plutôt intrapsychique, donc c'est vraiment, j'entends une voix dans ma tête, une seule et même voix. Voilà, donc il y a une voix qui me parle dans ma tête qui s'appelle Murphy, enfin que j'ai appelé Murphy plutôt.
Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à cette voix, par rapport à ce personnage que vous avez créé ?
Au début, il a toujours été très très présent. Tout le temps, il critiquait ce que je faisais, il m'insultait, il me donnait des ordres, donc des ordres comme tuer des gens ou me mettre en danger moi-même. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a appris quand même ensemble à se supporter, on va dire. C'est un peu, voilà, c'est quand même pas facile tous les jours non plus, mais c'est beaucoup plus vivable qu'avant, il y a beaucoup moins d'ordres ou d'insultes.
Mais que ça soit ces hallucinations visuelles ou auditives, est-ce que vous avez quand même conscience que ça n'existe pas ? Est-ce qu'à un moment, vous dites, non, mais faut que je me ressaisisse, je vois, j'entends, mais ça n'existe pas ? Est-ce qu'on a ce recul-là ?
Moi, avec toute l'expérience que j'ai, tout mon parcours de rétablissement, je sais que ce que je vois, encore aujourd'hui, je sais que c'est faux, mais sur le coup, c'est quand même un peu, c'est toujours un peu flippant quand même.
Maximilien, est-ce que le fait d'en parler aujourd'hui publiquement, est-ce que c'est une forme de thérapie pour vous ?
Oui, ça fait partie de mon rétablissement. C'est hyper important d'en discuter, parce qu'il y a plein de gens qui ont cette maladie. Quand on m'a diagnostiqué une schizophrénie, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais peur. Et forcément, les personnes aujourd'hui qui sont diagnostiquées, on leur explique pas forcément ce que c'est. Moi, dans mon cas, j'avais peur de rester enfermé toute ma vie dans un hôpital psychiatrique, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. En fait, enfin, on peut être hospitalisé, mais après, on ressort au bout d'un certain temps, quoi. Enfin.
Et c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup que vous avez décidé de faire de la prévention, d'en parler. Pour vous, c'est primordial.
Quand on dit le mot schizophrénie, on pense tout de suite à dédoublement de personnalité. On parle souvent de violence aussi, alors que on est plutôt nous à même d'être victimes de violence des autres que l'inverse. Après, ça arrive, il y a des cas extrêmes, mais c'est pas voilà, c'est comme dans la population normale, il y a autant de personnes en fin de compte qui peuvent devenir violentes.
Ce que vous faites au niveau de la prévention, c'est pour les gens qui souffrent de schizophrénie ou c'est pour l'entourage ou pour les deux ?
C'est pour les deux. Même pour la famille, c'est très compliqué. Même dans ma famille, c'est un peu compliqué dans le sens où voilà, et encore il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec mes parents. Je pense que voilà, ils sont encore un peu dans le déni encore aujourd'hui, même si ça fait encore des années.
Eux-mêmes ont eu très peur lorsqu'on vous a diagnostiqué schizophrène. Parce qu'évidemment, ils ne connaissaient pas. Comment ils ont réagi à ce moment-là ?
J'ai entendu une fois une discussion. Et mon père ou mes parents se demandaient s'il fallait pas s'enfermer dans leur chambre le soir.
Pour quelle raison ?
J'imagine que parce que peut-être qu'ils avaient peur que j'arrive dans leur chambre pour les tuer ou des choses comme ça.
Et vous, vous dites quoi à ce moment-là ?
Bien, oui, c'est compréhensible parce que c'est pas du tout expliqué. C'est même très mal expliqué quand on parle dans les médias, tout ça. Quand on parle de tueurs en série, souvent on fait l'association avec schizophrénie. Ça fait peur, ça peut exister, mais voilà, c'est des cas très extrêmes.
Vous animez des réunions d'information à l'établissement de santé mentale à Caen. Et vous avez aussi une chaîne YouTube et aussi un compte Facebook où vous prodiguez plein de conseils.
Alors, à l'EPSM à Caen, avec l'unité Ariane, je suis intervenu, par exemple, sur des ateliers. Donc, sur l'Insight, c'est la reconnaissance des troubles de la maladie. Donc, c'est des personnes qui participent à cet atelier, qui connaissent pas trop leur maladie, ni le rétablissement. Parce qu'en général, quand on parle de schizophrénie, on parle de, y a pas de guérison, on parle pas vraiment de rétablissement. Alors qu'on peut aller vers un mieux-être. Moi, j'interviens sur une séance qui est sur le rétablissement. Et du coup, je leur pose directement la question à eux. Pour vous, c'est quoi le rétablissement? Donc, il y en a qui peuvent dire, on parle de guérison, alors que c'est pas exactement la même chose. Guérison, c'est vraiment, il y a plus de symptômes, on prend plus de traitement, alors que le rétablissement, on peut toujours vivre avec certains symptômes, on a un traitement à prendre. Et voilà, on apprend à gérer, on apprend à vivre avec, et on apprend aussi à retrouver une vie sereine, en fin de compte.
Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, ça dépend. Si, par exemple, je prends l'exemple des hallucinations auditives, mais qu'on situe dans l'environnement, on peut se boucher les oreilles, on peut mettre de la musique, des conseils aussi pour le rétablissement, donc avoir une activité physique régulière, par exemple, ça peut aider. Aussi, ce que je donne souvent, c'est développer une passion, développer quelque chose où on puisse s'exprimer. Donc pour moi, ça a été l'écriture,
la poésie,
oui, le chant surtout, parce que je chante depuis que j'ai des cordes vocales, et puis la peinture aussi depuis un an et demi, quelque chose comme ça.
Et vous dites qu'il ne faut pas contredire les hallucinations. Faut pas dire à quelqu'un qui dit je vois ça, j'entends ça, lui dire non mais ça n'existe pas.
Non, parce qu'après du coup ça crée un peu un conflit, parce que moi, par exemple, maintenant je suis rétabli, mais pour une personne qui vit des hallucinations, c'est bel et bien réel, en fin de compte.
En tout cas, la schizophrénie, on n'en guérit pas forcément, mais on peut vivre avec. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui. On peut tout à fait se rétablir. Après, on va voir un médecin, on va voir un psychiatre, il nous donne un traitement, on prend le traitement, et puis basta, en fait. Mais ça se passe pas vraiment comme ça, en fait. Enfin, il faut qu'on devienne acteur de notre rétablissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des choses pour qu'on aille mieux, participer à des ateliers, développement personnel. Comme moi j'ai pu faire par l'écriture, essayer de sortir un peu tout ce que j'avais sur le cœur et dans la tête.
En tout cas, il ne faut plus que ça soit un sujet tabou.
Voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'on puisse rassurer, qu'après ça parlera toujours plus ou moins à tout le monde, je pense.
Merci beaucoup Maximilien Durand. On va mettre le lien vers votre chaîne YouTube sur le site de l'émission Rendez-vous Place du Marché. Florence Bayeul, on vous rend votre bus. Vous en avez besoin car vous devez partir à Argens. Est-ce que c'est loin d'ici ?
Non, c'est à une demi-heure, mais effectivement on répète un spectacle. Donc aujourd'hui c'est timing serré.
En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Nous, on va retourner au marché d'Hérouville-Saint-Clair. On va juste traverser la rue, car c'est bientôt l'heure de l'apéro. On va déguster des spécialités syriennes, des plats qui connaissent toujours un gros succès lors de la fête des communautés, dont vous nous avez parlé, Joël. Et on fera la connaissance d'un homme qui a une double casquette. C'est le doyen de la faculté de droit de Caen. Et il est aussi musicien. Il nous chantera du rock country en français.
On a loué une maison, pas très loin d'Avignon, un vieux Polonais qui cherchait une mine d'or. Il faisait bonder l'aurore à regarder le ciel dans un fauteuil en toile. Et les poules imbéciles et le coq d'opéra, quand le café était prêt, une fenêtre s'ouvrait, la mère bonne humeur commentait un de ses rêves. J'ai les pieds gelés, mais je me souviens du mois d'août 75. Et tu tissais un gilet comme un sage d'artisan, au maillot de bain, du soir au matin. frangins faisaient des sprints à vélo sur une route déserte. On allait chercher du fromage, du chèvre frais dans la ferme du haut. Sur les chaises du jardin, le père Barbuchot pensait à Picasso. Oh, la piscine était loin, mais ça faisait du bien quand on arrivait, quand on arrivait. On buvait du pastis comme si c'était de l'eau. Tu voulais que je reste, tu voulais que je t'enlève comme un premier amour. On jouait à la pétanque comme des amateurs. Mais y'a guère qu'un armateur pour 100 000 navigateurs, un seul compteur. Pour 100 000 baratineurs, des camps dans le cou, les yeux qui me piquent, mais je me souviens. On écoutait le mistral souffler sur la plaine, on faisait l'amour sur le toit en regardant les étoiles. Y'avait rien à gagner, les journées passaient, tout était simple. Voyait plus en rien d'autre qu'un instant. Et ça jouait de la musique sur tous les sentiments. Pas d'intrigue de village, pas d'ambition. Juste une manière de vivre, une manière d'être. Sur de la paraffine et des souvenirs idiots, mais qui donnent un peu de lumière. Les jours de pluie.
C'était Charles-Élie Couture avec la balade du mois d'août 75.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
On est revenu au cœur du marché d'Hérouville. On est vraiment au milieu de l'allée. Là, les habitants font leurs courses. Ils sont avec leurs cabas. Il y a les mouettes qui sont juste au-dessus de nous. Tout se passe bien, Joël, le temps s'horaire ?
Ben oui, on est au cœur du marché. Et là, c'est la vie. Tout autour de nous, c'est la vie. Et puis, il y a devant nous ce petit plateau là qui est alléchant, alléchant.
Raoul Bramia aussi, ziote sur le plateau qui nous fait de l'œil là.
On est en train de déguster un petit peu de falafel. C'est une spécialité libanaise, syrienne. Et ça nous fait voyager. Moi, je suis à Damas. On voyage.
Il y a toujours Maximilien Durand qui est avec nous, qui va aussi goûter ses plats. Et on a été rejoint par Jean-Christophe Panuco. Alors Jean-Christophe Panuco, vous avez une double casquette. On peut même dire que, en fait, vous êtes deux invités en un, puisque vous êtes le doyen de la faculté de droit de Caen, qui est juste à côté d'Hérouville, et vous êtes aussi chanteur de rock country. Vous nous chanterez dans quelques instants l'une de vos compositions. Mais avant, c'est l'heure de passer à table, parce que c'est l'heure de l'apéro. Et aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, Raouf, on déguste des petits plats succulents qui viennent de Syrie, et même plus précisément d'Alep. Grâce à vous, Salman Abo, c'est vous qui avez cuisiné ça avec votre père. Vous êtes juste à côté, là, avec votre stand. Qu'est-ce qu'on a là dans le plateau ?
Vous avez des falafels et vous avez des samboussacs à vos viandes et vous avez des poulets grillés et vous avez des viandes hachées faites à barbecue. On fait tout ça fraîche avant un jour ou deux jours et on présente au marché et les gens ils sont aimés qu'est-ce qu'on est en train de faire. Du coup, voilà, c'est bien de présenter les cuisines d'Alep pour les gens qui savent pas.
Vous, Salman, vous avez quel âge ?
18 ans.
Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps ?
Bah, depuis 2017.
Et dans quelles circonstances vous êtes arrivé en France ?
Bah, à cause de la guerre. Et il y avait la guerre, la Syrie. Du coup, quand il y a la guerre, il n'y a pas de vie. Il y a des vols partout. On a laissé notre maison, notre voiture, notre travail. On avait un grand magasin. On vend des chaussures et on fabrique. Et du coup, on est obligé de fermer parce qu'on ne peut plus aller. Parce que c'est la guerre. Et du coup, on a essayé de sortir au Syrie avec notre famille pour que voilà, on ne perde personne. Et on a de la chance qu'on n'a perdu personne, heureusement. Et on est venu en France, on a commencé à zéro. De zéro. On a loué une petite maison. Doucement, doucement, on a essayé de travailler. Et nous, on travaille et on... pour bien vivre en... avec les gens.
Merci beaucoup, Salman. Bon courage à vous. Je suis sûr que le business se tourne bien, là, vu que comment c'est bon et comment tout le monde se régale. Comme Jean-Christophe Panuco, c'était bon.
Ah, excellent, excellent. Effectivement, on voyage. Ouais.
On le rappelle, vous êtes donc le doyen de la faculté de droit de Caen et vous êtes aussi chanteur. Mais là, je m'adresse d'abord au doyen. Depuis 5 ans, vous dirigez une soixantaine d'enseignants pour 3500 étudiants. Comment s'est passée cette année scolaire pour vous et les étudiants ?
Bah, l'année a été compliquée pour tout le monde, hein. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Il a fallu se réinventer, il a fallu s'écouter, il a fallu travailler ensemble, il a fallu renouveler un tout petit peu nos méthodes et nos habitudes dans un contexte qui n'était pas simple aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle.
Pour les étudiants, qu'est-ce qui a été le plus compliqué ?
Le plus difficile pour les étudiants, c'est la fin de leur vie sociale. C'est-à-dire que les contraintes qu'on a connues de confinement, d'isolement, d'impossibilité de se rassembler, parce que finalement, nous, on est des filières de masse, on peut accueillir dans un amphithéâtre 500 personnes, parfois 1000 personnes, donc on imagine bien que toutes les restrictions qui frappent actuellement les rassemblements, les salles de spectacle, etc., nous frappent également de plein fouet. Donc il a fallu assurer quasiment presque toute une année de cours à distance. Les cours ont été assurés, on a fait le travail, on s'est réinventé en visioconférence, etc., mais on n'a pas pu rendre à la jeunesse ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire le besoin d'être ensemble, la nécessité de vivre ensemble. Les études, c'est bien sûr le fond, c'est ce qu'on transmet, c'est le savoir, mais c'est aussi apprendre à travailler tous ensemble dans cette collectivité qui se renouvelle sans cesse. Et ça, on n'a pas pu le recréer, c'est certain.
Est-ce que vous avez dû aider des étudiants en grande précarité ?
Oui, alors, on a effectivement aidé des étudiants en grande précarité, mais je serais tenté de dire qu'il faut un tout petit peu sortir du discours ambiant. La précarité des étudiants et la situation difficile de nos étudiants, elle a toujours existé. En fait, la crise a surtout accentué ces situations de précarité qui préexistaient et dont on parlait finalement pas beaucoup. Là, on commence à en parler beaucoup ces derniers temps, cette dernière année, parce que l'année dernière, on en parlait très peu finalement. Donc, il y a eu beaucoup de mesures d'assistance qui ont été déployées par l'université. Donc,
concrètement, vous avez aidé de quelle façon ?
De l'aide alimentaire, de l'aide financière, du prêt de matériel informatique, parce que quand on suit des cours à distance, encore faut-il pouvoir être équipé, un suivi médical, un suivi psychologique, et puis alors à notre échelle à nous les enseignants, on a essayé d'assurer une plus grande proximité, un échange plus simple avec nos étudiants, et c'est sûr qu'on a créé là un contact direct qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quand on est face à plusieurs centaines de personnes.
Vous avez proposé un soutien psychologique carrément ?
Alors, un soutien psychologique qui a été fait par des professionnels de la psychologie, on ne sait pas tous improviser psychologue, donc les services de l'université ont déployé leur service de santé pour permettre un suivi plus important. On a également, et là c'est un peu la force de la fac de droit qui est au milieu de plein de réseaux professionnels, on a travaillé avec nos réseaux professionnels, les avocats, les magistrats, les notaires, les huissiers qui ont proposé un système de parrainage auprès des étudiants. Alors ils prennent nos étudiants en stage, ça c'est normal, ils travaillent pour eux, mais il y a eu là un système de parrainage où les étudiants qui étaient en difficulté, qui souhaitaient simplement parler, pouvaient s'adresser non seulement à leurs professeurs, ça ils ont l'habitude, mais également à des professionnels pour échanger sur leur avenir, sur leurs problématiques. Alors on a tout eu, hein. On a eu des gens qui sont allés un petit peu en cabinet travailler pour voir un peu de monde, et puis on a des praticiens qui ont été assez gentils pour recevoir des étudiants à dîner ou en week-end. Enfin bon, il y a eu un peu des initiatives qui sont un peu décalées, mais qui ont très bien fonctionné. Ouais.
Un bel élan de solidarité. Et dans cette situation compliquée, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été soutenu par l'État, par votre ministère de tutelle ?
Alors, clairement, devoir de réserve mis à part, non.
Merci pour votre franchise.
Non, franchement, non. Un petit peu par retard, à rebours, hein, on a quelques enveloppes de financement qui arrivent bien trop tard pour recruter des tuteurs parce qu'ils estiment que les tuteurs, c'est la source de tout. On a plutôt, à vrai dire, été un peu parasité par le pouvoir exécutif. Alors, encore une fois, c'est dit sans quelconque aigreur ni quoi que ce soit. Mais on a été surtout victime des annonces un peu à contre-temps de notre ministre de tutelle et de notre président de la République qui pouvait décréter dans une réunion comme ça que les étudiants pouvaient soudainement retourner en cours un jour par semaine. Et puis derrière, on recevait des circulaires qui nous expliquaient qu'en fait, on pouvait bien recevoir des étudiants, mais dans la limite de 50 étudiants maximum, dans la limite de la moitié d'un amphi, dans la limite de 20% de la capacité d'accueil d'un bâtiment. Et il nous fallait, nous, expliquer aux étudiants que ce qui avait été promis par le président n'était pas applicable en réalité, pas applicable dans les conditions qui avaient été données.
Mais pourquoi c'était pas applicable ?
Mais c'est d'une mauvaise connaissance du terrain. Une mauvaise connaissance du terrain. Je pense que notre ministre de tutelle et notre président ne connaissent pas le terrain, ne connaissent pas la lourdeur de fonctionnement quand vous tractez 3500 étudiants et que vous tractez des amphis de 500 personnes et de 1000 personnes dans le respect d'un protocole sanitaire. Non, c'est pas aussi simple que peut l'être parfois une classe de 20 personnes.
Il y avait un problème de logement aussi.
parce qu'il y avait très peu de jours en présentiel et on leur demandait de louer des logements à des étudiants qui étaient déjà en précarité.
Alors là, les différentes composantes de l'université ont agi en leur âme et conscience. Là, moi j'ai dû prendre une décision qui était une décision un petit peu dure, d'expliquer que non, on n'allait pas faire un jour ou deux jours de présentiel tous les 20 jours, mais qu'on allait faire nos cours en distanciel précisément pour libérer cette partie d'étudiants qui devait supporter le poids d'un loyer. Alors, ça nous met dans une position impossible, parce que quand on dit ça, bah forcément, pour des étudiants qui sont en rupture de lien social, leur expliquer qu'ils vont pas pouvoir revenir à la fac, c'est terrible. Mais en même temps, si on leur maintient, en respectant le protocole sanitaire, le fait de revenir à la fac, on les fait revenir une fois tous les 20 jours, et un loyer à supporter pour une fois tous les 20 jours, ça nous semblait avec l'équipe pédagogique pas tolérable. C'est pour ça qu'on a privilégié au maximum l'enseignement en distanciel. C'est pas génial, c'est pas ce qu'on préfère, c'est pas là où on obtient les meilleurs résultats, mais il nous semblait que socialement, économiquement, c'était la mesure la plus adaptée.
Cette crise sanitaire aura quelles conséquences sur l'avenir de ces étudiants ?
Ah, conséquences sur l'avenir de ces étudiants. Alors sur le plan académique, contrairement à ce qu'ils pensent pas beaucoup, on a eu vraiment, nous, à cœur de terminer l'ensemble des programmes, de leur faire des vrais examens, de leur délivrer des vrais diplômes, d'avoir aussi un niveau d'exigence. Ça, c'est pas évident à faire comprendre.
Ça sera pas un diplôme au rabais.
Non, c'est pas un diplôme au rabais. On n'a pas des statistiques de réussite qui sont plus importantes que d'habitude et on a maintenu nos exigences. Ça n'a pas été plus, ça a été beaucoup moins. Beaucoup d'entre eux, malgré la crise, ont quand même trouvé un stage, ont trouvé des insertions professionnelles, continuent leur parcours. Donc la vie continue. Maintenant, il va falloir réapprendre à vivre ensemble, les faire revenir à l'université et puis reprendre une vie un tant soit peu normale. Et c'est pas facile hein, parce qu'on a perdu beaucoup de sens de l'organisation entre les collègues et puis les étudiants. Donc on va essayer de récupérer tout ça.
Alors maintenant, je vais m'adresser à l'autre Jean-Christophe Panucco, le musicien. Alors votre passion, c'est le rock country. Vous créez, vous écrivez vos propres compositions et vous avez accepté de nous jouer l'un de vos titres, c'est...
Brie Station, qui est sur l'album de mon groupe Les Witch Doctors, le dernier album. Voilà.
On vous écoute.
Ton corps est lourd et engourdi. Ce que tu ne choisis pas. Mais chaque jour est une chance de repousser les évidences et de secouer ton étoile au-delà de ces cieux qui dansent.
Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez.
Brise tes chaînes, brise tes chaînes. Brise tes chaînes, brise tes chaînes. Et va où le vent se mène. Chacun fait de son mieux pour se tenir droit debout, pour vaincre le froid et le feu, s'en sortir avec quelques sous. Ce soir la lune est belle, il suffirait d'une étincelle.
Ambiance dans le marché là, c'est génial. Et vous étiez soutenu par Maximilien Durand qui a fait les chœurs. Merci beaucoup Maximilien. Là, tout le monde s'est arrêté, vous avez écouté, c'était génial.
C'est gentil, merci.
Vous faites entre 20 et 40 concerts par an. Alors vous serez d'ailleurs le 28 août à Lagrune-sur-Mer et le 29 août à Ocagne en concert. On rappelle que vous êtes aussi le doyen de la faculté de droit à Caen. C'est pas compliqué cette double casquette?
Ça peut paraître de temps en temps un petit peu décalé. Quand vous jouez dans un bar et que vos étudiants entrent, il y a toujours un petit moment comme ça. Puis finalement...
Ils se disent, c'est le doyen, on dirait le doyen, mais c'est lui.
Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, on ne tiquerait même pas si j'étais simplement un sportif de haut niveau.
Et les étudiants, lorsqu'ils vous voient, ils viennent vous voir après, ils vous disent quoi?
Absolument. Alors parfois, j'ai des petits mots qu'on me glisse pendant le concert sur mes amplis en disant, je vous ai eu en amphi, mais je préfère quand même votre musique.
Ne changez rien, Jean-Christophe Pagnucco, vous êtes parfait. Merci beaucoup. Merci également à la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Merci à Sébastien Galopin et Raphaël Yem, l'enfant du pays. Cette émission a été réalisée avec talent par Camille Blanès. C'est Irène Ménahem qui l'a préparée avec l'aide de Julia Martin et Thomas Lehété. Merci à tous les trois. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Orly Sfez à Saulieu, en Bourgogne.